du matin et on est dans le beau Botswana, c'est-à-dire un homeland. Et on est chez dans une famille, après dans une zone de mines, de platine. Et là on est dans une famille, une dame très très belle, habillée tout en bleu, très très digne, qui porte une toute petite fille sur ses genoux, qui est Katrina. Et cette dame, il y a 8 jours, a enterré son fils. Et devant elle, il y a un papier. Je ne sais pas très bien pourquoi elle l'a mis là. Et le texte, c'est on an empty stomach, dans un estomac vide.
Hey, run away! Why do you run away? You run away!
La dame en bleu s'appelle Elisabeth. Et vous allez voir que c'est une femme comme on rencontre très très peu dans sa vie. On est là au Botswana, c'est-à-dire dans un des homelands, un des bantoustans d'Afrique du Sud qui constitue ce que les dépliants touristiques appellent une passionnante mosaïque de culture. Alors qu'est-ce que c'est que ces homelands et ces bantoustans? Il faut que je vous explique ça parce qu'on va... C'est très important pour l'histoire que vous allez entendre. En fait, ces bantoustans, il s'agit de réserves dans lesquelles les Noirs d'Afrique du Sud ont été assignés, astreints à vivre ou à survivre. Les homelands constituent une des bases les plus délirantes et les plus ubuesques de l'apartheid. Ça date de 1913, même si vers 1870, par là déjà, les Anglais, à la suite de leur victoire sur les Zoulous, avaient assigné les Zoulous à des réserves, à des territoires. Mais disons que le Land Act date de 1913, il a été renforcé en 1936 et mis véritablement en application lors du début vraiment de l'apartheid en 1848. Par ce Land Act, les Blancs ont décidé d'autorité de s'attribuer tout bonnement 87% des terres, évidemment de préférence des bonnes terres, avec ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire, vous le savez, de l'or, des diamants, un tas de minerais jusqu'à l'uranium, dont notre pays, entre autres, est fort friand. 87% des terres, alors que les Blancs en question ne représentent, je vous le rappelle encore une fois, que 15% de la population, et les Noirs constituant en gros 70%. Le reste, ben, ce sont les Métis et les Indiens. Donc 87% des terres restent 13%. Et ben, ces 13% ont été généreusement attribués aux indigènes. Il faut rappeler que ces indigènes étaient là bien avant l'arrivée des Blancs. Ça a été, bien sûr que les Blancs ont essayé de trafiquer, de truquer l'histoire, mais maintenant, évidemment, c'est établi. Donc ces homelands ne sont rien d'autre que des réserves exactement comme pour les Indiens aux États-Unis, par exemple, avec le fameux Indian Act. Ça ressemble tout à fait. Les USA ont été un modèle pour les Blancs d'Afrique du Sud. Et avec le même cynisme, on a fait croire qu'il s'agissait de protéger les ethnies noires qu'on considérait comme dispersées sur le territoire. À partir de 1959, la police et l'armée de Pretoria vont contraindre de force plus de 3 500 000 Noirs d'Afrique du Sud à quitter les endroits où ils sont nés, à se retrouver à des centaines de kilomètres de là où ils vivaient depuis des générations, où ils travaillaient, où parfois ils étaient mêlés avec d'autres ethnies. C'est une déchirure absolument inouïe, une sorte d'ethnocide culturel qui va être très difficile évidemment à réparer. Et une fois dans ces territoires, les Noirs ne pouvaient en sortir que sous certaines conditions aussi grotesques que draconiennes. Il leur fallait un pass, c'est le fameux pass law. Ce pass était un genre de passeport. Et ils se sont donc de cette façon retrouvés immigrés dans leur propre pays. Les bases ethniques et linguistiques de ces bantoustans, au nombre d'une dizaine, ont été établies par les Blancs de façon tout à fait artificielle, à grand renfort.